Morning Edition from NPR News.
Merci,
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous sommes avec le journaliste russe de l'Écho de Moscou, Sergueï Butman. L'Écho de Moscou fermé, bien sûr, mais quel bruit monte quand même vers la Russie de l'offensive en cours au Donbass. Quel discours est tenu par les télévisions et la propagande. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici au 9 mai? Autant de questions que l'on posera à notre invité. Le bruit du monde ce soir est à Idlib, en Syrie, avec des jeunes gens qui utilisent le chaos de leur ville pour faire du parcours avec un K, de la course à pied dans les obstacles de la ville. Et c'est étonnant. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé des soupçons d'espionnage sur les indépendantistes catalans. Apple qui crée un syndicat, une commentatrice de foot au Brésil. Et croyez-moi, c'est la révolution. 18h50, le cinéma en VO et un documentaire d'animation, My Favorite War. Ça parle de Lettonie occupée par les Russes et ça fait bien sûr écho à l'actualité du moment. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et le carnaval de Rio qui est le coup d'envoi de la saison politique avant les élections d'octobre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sergueï Butman.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur et co-rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou, radio qui a fermé, bien sûr, qui a été interdite d'émettre, on le sait, il y a plus d'un mois maintenant, comme d'ailleurs ne peuvent plus émettre Deutsche TV, on y viendra tout à la fin de cette séquence, comme ne peuvent plus paraître Novaya Gazeta. Mais notre lecture à nous, ici, en ce moment, Sergueï Butman, c'est que nous sommes à un tournant de la guerre. Poutine a commencé ses attaques massives sur le Donbass. Si je suis à Moscou aujourd'hui, est-ce que je sais qu'une offensive est marquée, qu'un objectif précis est visé? Le sait-on à Moscou? Qu'est-ce qu'on me dit pour me faire entrer, moi, dans cette narrative?
On nous dit que dès le début, à la télévision officielle, on nous dit que dès le début, c'était le but de l'opération était de protéger les républiques du Donbass, et cette mission serait accomplie par l'offensive qui vient de commencer. C'est ce que dit la propagande et c'est ce que dit la télévision officielle, mais je pense que tous les Russes qui le veulent peuvent puiser des informations de l'autre côté par des chaînes Telegram et par d'autres moyens qu'ils connaissent bien, mais trop souvent ne veulent pas utiliser.
Ils ne veulent pas, à votre avis, pourquoi? Est-ce qu'on finit par l'aimer, cette chape de plomb, au fond? Est-ce qu'on préfère ne pas savoir et être sous cette chape de plomb qu'impose le régime de Vladimir Poutine? C'est quoi votre explication à vous, Sergueï Butman?
Vous savez, il y a plusieurs réponses à cette question, et vous les avez énumérées, parce que il y a un certain sentiment de confort. Pour les gens qui ont décidé de soutenir cette opération et toute la politique de Vladimir Poutine et qui ne veulent qu'une seule façon de couvrir ce qui se passe en Ukraine, et ils ne veulent pas avoir d'autres idées et d'autres faits qui pourraient contester ce qu'ils apprennent par la télévision. Il y a aussi autre chose, parce que toute une génération, ça ne dépend pas de l'âge, mais une génération politique a été élevée en Russie depuis une quinzaine d'années. C'est une militarisation certaine de la vie, l'absence de la politique ouverte, l'absence des partis ouvertement d'opposition, l'absence de mouvement, y compris le mouvement estudiantin qui a été étouffé il y a trois ans à peu près. Voilà, tout était prêt pour cette, disons, opération. Voilà.
Et en même temps, j'entends dans ce que vous nous dites, lorsque la propagande russe dit que le but, depuis le début, c'était ça, c'était de protéger cette zone du Donbass, j'ai l'impression, en creux quand même, d'entendre un recul par rapport à ce qu'étaient les discours d'aujourd'hui, les discours d'hier, plutôt les discours du début de la guerre. On ne parle plus que du Donbass, au fond, dans l'offensive, on ne parle pas de l'ensemble de l'Ukraine, donc on parle pas de ce qui a pu se passé à Kiev ou ailleurs, comme si, y compris la propagande russe, à nouveau se rassemblait sur la zone du Donbass et uniquement la zone du Donbass.
Voilà, vous avez parfaitement raison, parce que au début de cette annonce, de cette opération, au début on disait qu'il fallait dénazifier
Exactement.
Et démilitariser, oui, toute l'Ukraine, l'Ukraine entière. Et peut-être, je pense, ceux qui ont décidé d'intervenir en Ukraine pensaient que la population ukrainienne vraiment était contre son gouvernement, vraiment était sous le joug des nazis qui s'étaient installés à Kiev et dans d'autres villes. Mais à petit, les termes changeaient et les causes changeaient. Et voilà, mais il y a une très vieille culture soviétique et plutôt stalinienne d'oublier ce qui se passait hier.
Et en même temps,
d'oublier aujourd'hui ce qu'écrivaient les journaux hier. Voilà.
Et en même temps, j'ai le sentiment aussi, ce qui se dit en tout cas, c'est que depuis une semaine, et un peu plus d'une semaine, le mot guerre, qui normalement n'est prononcé que par nous et qui est interdit de votre côté à vous, est revenu doucement comme pour amener la population à comprendre que oui, c'est une guerre. Parce qu'à un moment, il faut préparer aussi aux morts, il faut préparer à ce qu'on commence doucement à entendre de la part des familles, notamment les familles du fameux bateau qui a coulé il y a quelques jours. Donc est-ce que là aussi, il y a peut-être une crainte en fait que l'opinion russe se craquelle au milieu de ça ?
Oui, peut-être, mais j'en suis pas sûr parce que même les pertes du croisé Moskva, ces pertes, c'est une sorte de blé-coute, une sorte de silence sur la quantité des victimes de ce naufrage, de ce qui s'est passé, parce qu'on dit très souvent, on dit même le bateau a été coulé, et puis on parle de l'ouragan, on parle de n'importe quoi, et surtout de l'incendie, mais la quantité est inconnue. Les détails sont inconnus. Et puis, il y a une autre chose très intéressante, parce que c'était les remboursements, les versements aux familles des soldats, des officiers et des marins ou tués pendant cette opération. Voilà, c'était fourni par les administrations civiles. Et maintenant, il y a une certaine une décision. On dit qu'il y a une décision, que ce sont les commissariats militaires qui vont octroyer ces remboursements et ces versements. Voilà donc, le silence est préservé, et comme c'est une loi, quand il y a une opération spéciale et pas la guerre, il y a les pertes, la quantité des pertes, c'est le secret d'État, c'est un secret d'État, voilà.
Et vous pensez...
Voilà, donc il n'y a pas ce mouvement dont vous parlez, il n'est pas très accentué, parce qu'il y a certaines personnes qui disent guerre, il y a même qui font la guerre, a dit le président Poutine dans son discours au stade Loujniki. Voilà, ils ne savent pas eux-mêmes, ils ne suivent pas eux-mêmes trop strictement ce qu'ils ont décidé.
Sergueï Butman, on a bien compris ici que Vladimir Poutine attendait le 9 mai, la grande fête patriotique, pour annoncer quoi, selon vous, à son pays ? Le 9 mai, c'est très bientôt. Quelle victoire peut-il annoncer ? Et est-ce que ça veut dire, en effet, qu'on peut craindre que la guerre ne s'intensifie dramatiquement d'ici au 9 mai, précisément pour avoir quelque chose à annoncer aux Russes ?
Bien sûr, la guerre vient de s'intensifier, elle s'intensifiera, et tout dépend des événements concrets au champ de bataille. Mais une victoire, ça, on peut être sûr, sera annoncée le 9 mai. Dans le discours de Poutine sur la place Rouge.
Est-ce que vous diriez...
Ce serait peut-être si l'armée russe occupe tout le territoire administratif des régions de Donetsk et de Lugansk. Voilà, c'est une victoire. Donc, si Mariupol tombe, c'est une victoire. Et s'il y a un couloir dans au sud de l'Ukraine, au sud-est de l'Ukraine, Kherson, Zaporogie. Et peut-être la région de Nikolaïev, ce sera une très grande victoire.
Est-ce que vous diriez...
Mais la guerre ne cessera pas.
Alors, la guerre ne cessera pas. Est-ce que vous diriez, Sergueï Butman, que Mariupol, ce serait même une victoire à la Pyrrhus ? C'est-à-dire que oui, la ville va tomber. De fait, la ville finira par tomber, mais ça nécessite tellement d'hommes en fait, et ça en tue tellement aussi, y compris côté russe, que ça finit comme une victoire à la Pyrrhus.
Objectivement, oui. Objectivement, mais vous savez, il faut retenir une chose. Quand on parle des victoires annoncées le 9 mai, il ne s'agit pas de fête, il ne s'agit pas de réalité, il ne s'agit pas de coup de ces victoires, il s'agit d'annoncer une victoire. Mm-hmm. La journée de la victoire, la Seconde Guerre mondiale, ce devrait être une journée de victoire plus, voilà. Mm-hmm. Une autre victoire. On pense beaucoup aux dates, voilà. Mm-hmm. On pense toujours aux dates. C'est le lendemain de la journée de l'armée soviétique qu'a commencé cette soi-disant opération spéciale en Ukraine. Voilà, mm-hmm. C'est le 24 et le 23 février, c'est la journée. C'est le culte de ces dates, ça existe, cette sorte de numérologie et astrologie. Voilà, un peu populaire.
Sergueï Butman, l'un de vos confrères qui travaille toujours pour Deutsche TV, vient d'entrer dans le studio. Avant de lui donner la parole, je voudrais vous poser la question à vous. Aujourd'hui et au moment où on se parle, l'écho de Moscou, c'est quoi en fait? Comment vous arrivez quand même à travailler de toute façon et à transmettre de l'information?
Il n'y a pas d'écho de Moscou, il y a un groupe de copains, de collègues. Un groupe qui a repris quelques émissions, quelques vieilles émissions traditionnelles par YouTube. Mm-hmm. Et nous avons organisé deux chaînes, une chaîne qui s'appelle La Clou Vivante et une autre chaîne qui s'appelle Dilettante, une chaîne historique. Donc nous avons relancé quelques-unes de nos émissions et puis nous en avons créé d'autres. Et ça existe, c'est tous les jours, sauf dimanche. Maintenant, on est en direct par YouTube. Voilà, c'est nos activités.
Les vôtres.
C'est un peu artisanal, mais ça existe. Et vous savez, quand ils ont barré ce fleuve qui s'appelait Écho de Moscou, il y a énormément de ruisseaux, de petites rivières. Il y a des journalistes qui sont partis à l'étranger et qui ont fondé leur chaîne YouTube, qui participent aux émissions russophones, notamment en Allemagne. Et il y a beaucoup d'échos de Moscou, maintenant une dizaine, même plus.
Et c'est là-dessus que je voulais vous quitter et garder ces quatre dernières minutes. Merci beaucoup, vraiment. Merci Sergueï Butman d'avoir été avec nous. À très bientôt, je l'espère. Et je voudrais vous présenter Denis Kataev. Et l'écouter d'abord.
Денис Катаев, хоть и в Париже, но с новыми декорациями. Денис, привет.
Bonjour à toutes et tous, как говорят во Франции. Привет, Богдан. Действительно, вот как вы видите, выходим впервые из Парижской студии.
Bonsoir, Денис Катаев.
Bonsoir, Fabien.
C'est vous qu'on entend.
Merci pour l'invitation, oui.
Ici, c'est avec grand plaisir. On est content de vous entendre d'abord parce qu'on vous croise tous les jours dans les couloirs de Radio France en ce moment.
Nous sommes collègues.
Exactement, on est collègues à la rédaction internationale. On est heureux de vous avoir accueillis. Vous travaillez toujours pour Deutsche TV qui effectivement, comme l'écho de Moscou, a cessé d'émettre, mais qui repart évidemment sur YouTube. C'est comme ça que des vidéos comme celle qu'on vient d'entendre existe. Vous êtes combien en fait désormais,
oui,
Denis?
En fait, on est une petite équipe, environ 40-50 personnes. Il n'y a pas beaucoup de journalistes pour la seule chaîne indépendante en Russie. Et après le choc, après le début de la guerre, nous avons diffusé H24. Beaucoup d'entre nous ont dormi au bureau. Mm-hmm. C'était très important pour nous, mais c'est une petite équipe, bien sûr.
Et vous êtes, vous en France, vous êtes combien en France, par exemple?
Moi, je suis seul en France. C'était un choix conscient, mm-hmm. parce que j'adore la France. J'apprenais le français.
Ouais.
Et j'adore les cultures françaises, Proust et Rimbaud. Et j'ai le visa Schengen et j'ai vacciné à Paris. C'est pourquoi. Mais la plupart de mes collègues sont en Géorgie pour l'instant.
Alors, vous arrivez à émettre, à avoir recréé, en fait, sur YouTube, Deutsche TV, vous arrivez à mettre avec quelle régularité désormais?
Une fois par semaine d'habitude, parce que chacun de nous a créé les chaînes privées sur YouTube et sur Telegram. Et les journalistes et les présentateurs comme moi ont créé les chaînes privées sur YouTube et on a une émission par semaine.
Et est-ce que vous avez le sentiment, Denis, que vous avez pu retrouver sur YouTube ceux qui vous suivaient en Russie? Ça veut dire que vous avez combien de connexions? Est-ce que vous sentez qu'on vous écoute là-bas parce qu'on a besoin de ces infos que vous donnez aux Russes?
Oui, bien sûr, parce que les spectateurs en Russie peuvent continuer à aller à regarder nous en utilisant un VPN pour accéder à les ressources qui sont bloquées. Et ce public existe pendant la guerre, juste après le début de la guerre. On a obtenu plus de 25 millions de vues juste sur YouTube par jour. C'est pourquoi c'est une grande audience et on ressent le besoin et les demandes d'informations indépendantes en Russie. Il y a beaucoup de gens qui restent en Russie pour l'instant, comme ma mère par exemple. Il y a des besoins et il y a beaucoup de gens qui pensent différemment que l'agenda.
Ça veut dire que, est-ce que vous avez le sentiment, Denise, de ne prêcher que des convaincus, ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez contribuer à changer l'opinion publique en Russie? Ou alors, comme le disait Sergueï Butman à l'instant, il y a des gens qui veulent pas, en fait, réellement savoir en Russie ce qui se passe.
Oui, bien sûr, je suis sûr qu'il existe une minorité progressive qui change l'histoire. Les gens, la classe moyenne, des gens éduqués, nombre d'entre eux restent en Russie et on voudrait continuer à travailler d'ici en Europe pour informer les gens en Russie, pour changer l'opinion publique. Je pense que c'est possible parce que en plus il y a quelque chose qui rassemble à le mouvement résistance qui a créé à Londres par général de Gaulle à la radio de Londres. Oui, c'est pourquoi on va créer quelque chose qui rassemble à la résistance des journalistes indépendants russes, le réseau des journalistes indépendants partout en Europe, et moi je vais préparer le travail de Paris.
Une dernière chose, Denise, il y a l'image des Russes désormais est difficile, elle est mauvaise, elle est même désastreuse. Est-ce que vous en souffrez sincèrement?
Oui, bien sûr, c'est dommage et triste pour moi, et je ne reviendrai pas dans la Russie de Poutine parce que c'est dangereux pour moi et parce que pour moi, c'est pas possible de vivre et de travailler dans le pays agresseur de ma conscience. C'est pas possible, mais j'espère que la Russie, comme président Macron a dit que la France est aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui sont contre la guerre et pour la paix. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la guerre et je crois que la Russie est la partie de l'Europe. C'est pourquoi je crois que après la guerre, on voit la nouvelle Russie.
Russie. Eh ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, et on sera ravis de continuer à vous croiser dans les couloirs de Radio France.
Est-ce que je peux inviter M. Macron à l'émission de Dost?
Eh ben, écoutez, l'invitation est passée. Maintenant, vous savez qu'il y a une élection et allez savoir ce qui va se passer dimanche soir.
Bien sûr.
Et allez savoir ce qui va s'y passer. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Ce soir, la suite, c'est le bruit du monde et nous allons à Idlib, en Syrie, avec des jeunes qui utilisent le chaos de leur ville pour faire du parcours, figurez-vous, de la course à pied, avec obstacles étonnants, jeunes gens que vous allez découvrir. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Legénie.
En Espagne, des soupçons d'espionnage massif contre les indépendantistes catalans.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, My Favorite War, un film documentaire d'animation qui raconte la vie en Lettonie à la grande époque de l'Union soviétique.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc. Bonsoir
à tous. Le carnaval de Rio revient après 2 ans d'absence et c'est en fait le début d'une année électorale sous très haute tension au Brésil. Là aussi, tiens, on va voter.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait un détour par Glasgow et Franz Ferdinand. Curious sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Light to see.
Le bruit du monde ce soir est en Syrie, dans la seule enclave qui résiste encore, la dernière. Près de 4 millions de déplacés s'entassent dans des camps, des familles d'Alep, des familles d'Homs. Et d'ailleurs, nous sommes à Idlib. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune à Idlib, qu'on doit trouver à s'occuper, qu'on est entouré de chaos? Eh bien, un groupe de jeunes gens a ouvert, figurez-vous, un club de parcours. Parcours avec un K. C'est quoi le parcours? C'est une discipline acrobatique venue de France qui consiste à courir en franchissant des obstacles urbains, sauter d'un balcon à l'autre. Par exemple, voyez l'ouverture de Casino Royale, tiens, de James Bond. À Idlib, on pratique dans les ruines des bâtiments détruits par la guerre, forcément. Et le reste, c'est Céline Martelet qui raconte avec Oussama Mahmoud.
Pour assister à une séance d'entraînement de l'équipe de parcours d'Idlib, il faut se rendre sur la ligne de front en direction d'Alep. Au fur et à mesure, le paysage change. Les camps où s'entassent des centaines de milliers de familles de déplacés laissent place à des villages vidés de leurs habitants. Plus on s'approche de cette ligne de front, plus les maisons, les bâtiments ont été détruits. C'est dans les ruines du village de Kafar El Noulan que 7 jeunes Syriens s'entraînent, tous habillés de noir. Ils sautent de bloc de béton en bloc de béton, escaladent à main nue les décombres.
Certains, vous allez à droite. Les autres, vous sautez là-bas. Akram et moi, on va sauter depuis ce mur. Et vous, vous élancez d'ici.
On va les rejoindre en haut d'un immeuble en montant par un escalier. Il tient encore, il est un peu bancal, mais il tient encore.
Je m'appelle Akram, j'ai 20 ans. On est ici pour notre entraînement de parcours. On vient tous les vendredis pour s'entraîner dans les ruines. On n'a pas d'autre place pour pratiquer, donc on vient dans cet endroit détruit par la guerre en Syrie. Je m'entraîne depuis 3 ans. Quand on vient ici pour pratiquer le parcours, cela nous permet d'oublier le reste et toutes les difficultés auxquelles on doit faire face. On n'a rien d'autre pour se distraire. Il n'y a rien à faire dans ce pays.
On me fait signe qu'il ne va pas falloir rester trop longtemps ici, tout simplement parce qu'on entend au loin des bruits de bombardement, des tirs de mortier qui proviennent des zones du régime. Mais ça n'a pas l'air de perturber notre équipe de parcours qui continue comme si de rien n'était.
Les 15 membres de cette équipe de parcours s'entraînent la semaine dans une petite salle qu'ils louent à Samarda, dans une zone plus sûre. Leur entraîneur est un ancien gymnaste, il a 26 ans. Il s'appelle Ahmed Awaz.
Avant la guerre, quand j'étais un gymnaste, j'ai gagné beaucoup de compétitions. Donc, grâce à cela, je me suis mis à pratiquer le parcours. Mais à cause de la guerre, je ne peux pas faire de compétition internationale dans cette discipline. On veut montrer que malgré cette guerre, la vie continue ici. Qu'on est encore capable de faire des choses comme cela. Et je rêve qu'un jour, on puisse participer à une grande compétition pour faire flotter notre drapeau, celui de la révolution syrienne. Mais tout cela est aujourd'hui impossible à cause des bombardements du régime. Nous, on veut que le monde entier sache qu'on est encore en vie ici et qu'on portera un jour les couleurs de la révolution syrienne dans une compétition internationale de parcours.
Pour perfectionner leurs acrobaties, l'entraîneur et ses élèves visionnent pendant des heures sur Internet les exploits des autres pratiquants dans le monde entier, notamment à Gaza, où la discipline se pratique aussi dans les décombres. Dans cette équipe syrienne, Ousmane, 14 ans, est le plus jeune.
Je me sens libre et c'est amusant. Ma mère est très inquiète, alors elle prie pour moi. Quand je finis mes devoirs, je vais m'entraîner directement à la salle.
Les blessures sont bien sûr très courantes pendant l'entraînement que nous avons suivi. L'un des membres de l'équipe s'est par exemple ouvert la lèvre en tombant. Pratiquer le parcours dans une zone comme Idlib où les hôpitaux manquent de moyens, c'est donc prendre un énorme risque. Akram est celui qui collectionne le plus de blessures.
J'ai été blessé à plusieurs reprises. Une fois par exemple, j'ai sauté depuis ce haut bâtiment et j'ai été blessé à ma jambe. Je suis resté 3 mois sans pouvoir faire du sport. Heureusement, maintenant ça va mieux. Chaque fois que je me blesse, je reviens avec encore plus de volonté de continuer. Là, je suis encore blessé. Ici, à mon poignet, une déchirure. J'ai fait trop de sauts périlleux arrière.
Une autre équipe de parcours a commencé récemment à s'entraîner à Idlib. Ces jeunes sportifs ont tous un même rêve, pouvoir un jour sortir de Syrie et participer à une compétition à l'étranger.
Céline Martelet avec Hussam Ahmoud pour le reportage à Idlib. Merci beaucoup. En très grande longueur à retrouver dans Interception, ce reportage sur France Inter, c'est dimanche après le journal de 9h. Sous les radars, c'est maintenant. Et nous sommes dans les rues de la capitale catalane, Barcelone. Sébastien, secoué par un scandale d'espionnage massif contre les indépendantistes.
Oui, l'affaire fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées. À l'origine, un laboratoire universitaire canadien, le Citizen Lab, spécialisé dans le contrôle numérique des populations. Et ce labo a donc découvert que les téléphones de plus de 60 personnalités de la mouvance indépendantiste catalane avaient été infectés entre 2017 et 2020 par le célèbre logiciel espion israélien Pegasus. Un logiciel qui permet de fouiller dans la mémoire du portable, mais aussi de déclencher les modes audio et vidéo à l'insu de son propriétaire. Parmi les personnes visées, la plupart des présidents et anciens présidents de la région catalane. Carles Puigdemont, qui avait fui en Belgique, lui n'a pas été écouté directement, mais tous ses proches l'ont été. Les indépendantistes catalans qui accusent directement le gouvernement central espagnol et ses services secrets, ce que démentent en bloc les autorités.
Este es un país democrático y de derecho.
On entend la porte-parole du gouvernement espagnol hier. L'Espagne, dit-elle, est un pays démocratique, un état de droit dans lequel on n'espionne pas, on n'intercepte pas de conversation, si ce n'est dans le cadre de la loi. Nous n'avons rien à cacher, absolument rien. Le gouvernement coopérera au maximum avec la justice dans l'enquête sur ces faits, si les tribunaux le demandent. Voilà, ce n'est pas la première fois que le gouvernement espagnol est soupçonné de tels agissements. C'était déjà le cas en 2019. Depuis, le scandale Pegasus a fait le tour du monde. Une douzaine de pays sont soupçonnés d'avoir utilisé ce logiciel à des fins d'espionnage. Emmanuel Macron a fait partie des cibles. Une commission d'enquête au Parlement européen a été mise en place le mois dernier.
Aux États-Unis, les salariés d'Apple tentés par la création d'un syndicat.
Et c'est une info du Washington Post. Des salariés du magasin phare de la firme à la pomme, le magasin de la gare Grande Centrale à Manhattan, ont entamé un processus pour former un syndicat. Le collectif s'est baptisé l'Union des travailleurs du magasin de fruits. Et ils ont voté il y a 2 mois pour s'affilier au Workers United, le syndicat qui a soutenu le mouvement social chez Starbucks. Les salariés d'Apple se plaignent notamment de revenus insuffisants, qui n'ont pas suivi l'inflation, alors que le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 50% en 4 ans. Les salariés qui disent avoir enduré aussi des mois de tentatives d'Apple pour les convaincre d'arrêter, une tactique de casse syndicale délibérée selon eux. Une consultation interne va bientôt être organisée et si les salariés votent pour, eh bien Apple Grand Central deviendrait le premier magasin d'Apple à se syndiquer dans le monde, mais pas le premier syndicat au sein des GAFAM. On entend là le leader du premier syndicat chez Amazon. Amazon qui s'est battu pendant des années contre l'idée d'une telle organisation. Mais les salariés ont fini par gagner le 1er avril dernier. Une victoire saluée par Joe Biden. Les grands groupes américains qui découvrent donc le dialogue social à l'occasion de la crise du Covid. C'est Starbucks qui avait ouvert la voie il y a quelques mois. Et ça ne fait visiblement que commencer.
Allez, on finit au Brésil qui va vivre ce soir une petite révolution sportive et télévisuelle.
Et même une révolution culturelle, Fabien. Allons-y. En effet, pour la première fois de l'histoire du pays, c'est une femme qui va commenter en direct un match de foot masculin sur la télévision la plus populaire du pays, TV Globo. L'heureuse élue s'appelle Renata Silveira, 32 ans, ancienne danseuse, au physique dirons-nous très télégénique, grande connaisseuse du ballon rond et dont la présence vocale à l'antenne est très prometteuse. Voilà Renata Silveira commentant un match de femmes. Alors pour son premier match masculin, elle n'aura pas une rencontre de grande qualité à commenter. Un modeste troisième tour de coupe du Brésil.
J'ai envie de dire,
pas...
ben voyons.
Voilà, il ne faudrait pas exagérer non plus. Le foot au Brésil reste une affaire d'hommes, un des milieux les plus misogynes qui soit. De 1941-79, la pratique du football était tout simplement interdite aux footballeuses. C'est donc pas gagné.
Allez, c'est jamais gagné, Sébastien. Merci beaucoup. Tiens, puisqu'on a quelques heures du débat de la présidentielle, je vais vous laisser avec ce qui pourrait être le mot d'ordre des deux candidats. Lean on me, reposez-vous sur moi. Version originale, celle de 72 et de Bill Withers sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but we know that there's always
Pendant que je chante, enfin, Monsieur Gratalon à la réalisation. Bon, ben, ok, maintenant ça c'est fait, donc maintenant c'est cinéma et Corinne Pélissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
Now, take the solemn oath. I, Date Pote, Linda Liegni, Ilga Kupfer, Ilse Burkowska, enter into the ranks of the Soviet Union to live.
Le cinéma en VO, c'est ce film de documentaire d'animation, plutôt cette semaine, qui s'appelle My Favorite War, Corinne Pélissier, avec un bond dans le passé, mais qui résonne évidemment tellement fort, pendant la guerre froide et les années d'occupation de la Lettonie par la Russie. Une façon évidemment d'éclairer aussi donc sur le conflit actuel en Ukraine.
Voilà l'intime, hein, dans la grande histoire, c'est le projet qui a germé dans l'esprit de sa réalisatrice il y a 9 ans, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ilse Buporska Jakobsen, qui a grandi dans les années 70, à l'époque où la Lettonie était encore une république socialiste soviétique, s'est dit à ce moment-là qu'il fallait raconter aux plus jeunes la réalité de la vie dans son pays, à la grande époque de l'Union soviétique, rappeler que la démocratie est fragile, que la liberté n'est pas un acquis. Elle a choisi pour ça la forme de l'animation, pour sa dimension universelle, avec un mélange de photos, de collages, de dessins, quelques images d'archives aussi, pour attester de son quotidien de l'époque, de la manière dont les messages de propagande s'immisçaient dans les consciences dès le plus jeune âge.
Did we have any choices here? Were we happy? As I grew older, I tried to understand the connection between choice and happiness.
Avec ce film, je voulais montrer comment, à l'époque soviétique, on manipulait les enfants pour leur faire aimer la guerre. C'était très facile. À cet âge, tout ce qu'on vous montre à la télé, c'est forcément la vérité. C'est seulement vers 13-14 ans que j'ai eu la révélation et que j'ai compris ce qu'il se passait. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des grands-parents qui avaient connu avant la démocratie et qui pouvaient raconter la vie dans un pays libre. Ça nous a beaucoup aidés au moment où le pays a retrouvé sa liberté en 91. On avait la mémoire de tout ce qui s'était passé entre-temps. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui doivent absolument s'intéresser à l'histoire de l'Europe pour avoir une vision globale de la situation, pouvoir prendre du recul avec tout ce qu'on nous raconte. Un retour en arrière serait terrible.
Et alors, dans son cas, Corinne, le déclic, ça a été quoi?
Alors, en fait, en s'amusant un jour avec ses copines, elle a découvert en bas de son immeuble, dans un bac à sable, les restes d'un soldat allemand. C'était le point de départ. Une autre histoire avait eu lieu dans son pays. Le régime l'avait caché derrière d'efficaces récits de propagande. Et donc, ben voilà, c'est ce qu'elle voulait raconter. Donner les clés aussi, les points de repère sur toutes les grandes dates de l'histoire de la Lettonie, depuis la guerre jusqu'à la grande mobilisation de 89, la fameuse voie balte et sa longue chaîne humaine qui avait fini par aboutir à l'indépendance du pays. Elle voulait montrer que la liberté acquise reste précaire, que la situation en Ukraine aujourd'hui menace tout le monde, à commencer par tous les pays qui ont une frontière en commun avec la Russie.
J'étais très contente en arrivant chez vous de voir le drapeau ukrainien flotter au-dessus du bâtiment de la radio. Ça m'a rassurée de voir qu'il y avait ici des gens qui se sentent concernés par la situation en Europe aujourd'hui. Bien sûr, je ne suis pas inquiète pour mon pays. Nous faisons partie de l'OTAN, nous sommes protégés. Mais si personne n'arrive à enrayer l'invasion russe, ça ira de mal en pis. Et ça, tout le monde le sait. C'est comme un cancer. Si on ne s'en débarrasse pas, il vous dévore.
Il faut aller voir ce documentaire qui est vraiment écrit à hauteur d'enfant, très bien réalisé, accessible à tout le monde, très pédagogique.
Voilà, et c'est votre choix. Ça s'appelle My Favoritoire en salle. Donc, c'est votre choix, Corinne Pellissier. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Jean-Marc, la France n'est pas la seule à voter cette année. Dans 5 mois, le Brésil va se rendre aux urnes avec un duel annoncé sous très haute tension entre Lula et Bolsonaro. Et la campagne débute en réalité demain avec le retour du carnaval de Rio, dont la dernière édition a plus de 2 ans. Un carnaval à la dimension politique évidente, et c'est votre monde d'après.
À première vue, c'est avant tout le retour de la fête, et c'est déjà beaucoup dans ce Brésil de 210 millions d'habitants, où le carnaval et la samba, on le sait, ont un poids social considérable, servent souvent d'exutoire. La fête ne sera pas totale parce que la mairie de Rio n'a pas autorisé le carnaval de rue, le plus populaire, libre d'accès. Mais le carnaval officiel a donc bien lieu, et c'est l'une des plus grandes fêtes au monde, une manne touristique aussi pour la ville. À partir de demain, et surtout vendredi et samedi soir, les 12 grandes écoles de samba vont donc défiler pendant des heures dans le sambadrome avec leurs chars gigantesques, leurs tenues bariolées. Pour les cariocas, les habitants de Rio, c'est une bouffée d'oxygène, le retour en quelque sorte à la vraie vie après 2 années marquées par la pandémie. L'an dernier, les festivités avaient été purement et simplement annulées. Cette fois-ci, elles ont été reportées à cette fin avril parce qu'en février, à la date habituelle, les contaminations étaient au plus haut. Elles sont maintenant redescendues, c'est la fin de l'été au Brésil. Le carnaval est de retour, aux grandes dames du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Si ça ne tenait qu'à moi, dit-il, ça n'aurait pas lieu. Mais c'est la mairie de Rio qui décide. Bolsonaro, lui, a préféré se rendre à Cuiabá, dans le centre du pays, pour une marche de Jésus organisée par une église pentecôtiste. Un autre Brésil, une autre ambiance.
Alors, est-ce qu'on peut qualifier le carnaval de moment anti-Bolsonaro, Jean-Marc ?
C'est, répétons-le, d'abord un moment de fête. Mais oui, il y a une vraie dimension anti-Bolsonaro sur 2 aspects. Le premier, c'est la lutte contre le racisme, la défense de l'identité noire et des origines africaines du Brésil. Ce thème a été retenu par 8 des 12 écoles de samba pour leur défilé de fin de semaine. 8 sur 12. L'une d'elles, Salgueiro, a même baptisé sa prestation du nom de « Résistance » en s'inspirant du mouvement américain « Black Lives Matter » et son affiche représente un point levé couleur rouge et or. Ce choix ne doit rien au hasard face à un Jair Bolsonaro coutumier des dérapages misogynes, racistes. Le dirigeant d'extrême droite voit d'ailleurs dans le carnaval une pratique païenne aux accents diaboliques. Le deuxième aspect omniprésent dans ce carnaval de Rio 2022, ce sera l'hommage rendu aux victimes de la pandémie de Covid. Et là aussi, l'allusion à Bolsonaro est évidente parce que le Brésil présente l'un des pires bilans au monde. 660 000 morts et encore, on ne parle là que des chiffres officiels. Et ce bilan, le président sortant en est en grande partie responsable tant il a fait preuve d'obscurantisme, anti-vaccin, anti-confinement, partisan de l'hydroxychloroquine, tout y est passé. Une commission d'enquête du Sénat cherche à l'inculper pour crime contre l'humanité pour avoir, je cite, délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse.
Donc, on a bien compris, le Brésil est en train de basculer en mode campagne électorale.
Et ça va s'accélérer rapidement après le carnaval. L'ancien président Lula, 76 ans désormais à l'abri des poursuites judiciaires, sera candidat. C'est un secret de polichinelle. Il pourrait l'annoncer dès la fin de la semaine prochaine. Le candidat de gauche sillonne déjà le terrain, rencontre aujourd'hui avec des syndicalistes, la semaine dernière avec les représentants des indigènes qui manifestaient à Brasilia pour défendre leurs terres et confirmation il y a quelques jours de l'identité de son vice-président potentiel, Geraldo Alckmin, un centriste à même de rassurer les milieux d'affaires. Lula veut ratisser large. En face, Bolsonaro, 67 ans, n'a pas dit son dernier mot. Il fait le ménage, il vient de mettre à la porte son ministre de l'Éducation soupçonné de corruption. Il a lancé son opération séduction auprès de sa base électorale, les évangéliques, le business de l'agroalimentaire, l'armée, la Bible, le bœuf et les balles, triptyque connu au Brésil. Il semble vouloir faire campagne sur le pouvoir d'achat, ça rappelle quelque chose, et il remonte dans les sondages, 14 points de retard sur Lula il y a 2 mois, moins de 10 aujourd'hui. Certains prêtent aussi aux dirigeants d'extrême droite l'intention de refuser de quitter le pouvoir s'il perd l'élection de peu. Trump sort de ce corps. Avec l'élection en France de dimanche et celle de mi-mandat en novembre aux États-Unis, cette présidentielle au Brésil le 2 octobre est le scrutin le plus attendu de l'année entre deux hommes que tout oppose. Derrière les festivités du carnaval se profile une élection électrique.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, bien sûr. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite fait durable pendant une heure de plus ce soir. Dans un instant, c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis 2 heures de téléphone sonne en attendant le débat avec vos questions et réflexions. Ne bougez pas.